Bonjour tout le monde, bonjour. J'ai la chance d'être une artiste qui va présenter trois architectes qui vont présenter. Donc, c'est la table architecture aujourd'hui et sensorialité plus spécifiquement. Ce qu'on a pensé, tous les quatre, c'est que ce serait une bonne idée d'ouvrir la possibilité d'intervenir pendant les présentations pour un peu animer tout ça. Donc, ne vous gênez pas avec une petite résistance ici, là, devant, pour trop d'enflammement. Non, mais ce serait bien que la discussion soit fluide et tout ça. Et tout le monde était prêt à se laisser porter par cette proposition. J'ai des questions, mais je ne vais pas les mettre de l'avant, donc on va prendre les questions de la salle et ensuite on ramènera tout ça. La première à parler sera Suzelle Balaise, qui est architecte et maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette et chercheur au sein du laboratoire Cresson.
Ah ben, je vais peut-être juste commencer par répondre à une question qui m'a été posée là depuis deux jours, à savoir, au fond, c'est quoi le rapport entre les odeurs et l'architecture ? C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois et j'ai peut-être pas toujours bien répondu. Et je dirais que l'architecture n'est pas que le jeu savant et magnifique des volumes sous la lumière. Ça, c'est une citation de Le Corbusier. Et pour moi, c'est une vision très ancrée dans le XXe siècle, très ancrée dans un siècle dominé par le sens de la vue, et en architecture particulièrement dominé par le sens de la vue, et de l'idée que l'espace, c'est justement des volumes qui sont organisés les uns par rapport aux autres. Et si on commence à essayer de penser l'architecture, ou peut-être même... les espaces comme, et je les mets volontairement au pluriel pour dire comme justement des lieux qui ont une identité sensible, alors à ce moment-là, on s'intéresse à toute l'appréhension sensible qu'on peut avoir de ces lieux et donc, entre autres, possiblement aux odeurs. Donc au laboratoire Cresson, à l'origine, c'était bien sûr le son, mais c'est devenu avec le temps aussi les ambiances lumineuses et dans mon cas, les ambiances olfactives et même maintenant... Là, je n'en parlerai que très, très peu aujourd'hui, mais les ambiances chimiques dans leur ensemble, qui ne sont pas que ce qu'on ressent avec notre odorat, mais qu'on perçoit avec notre système respiratoire, par exemple. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai appelé cette intervention puissance émotionnelle dans les lieux, parce que à quel moment, alors je vais expliquer puissance émotionnelle juste après, mais à quel moment l'odeur des lieux, c'est l'odeur dans les lieux, et il y a une nuance entre les deux, c'est-à-dire que justement, nous avons tous en fait des pratiques olfactives, nous rajoutons des odeurs dans les lieux. Et à quel moment ça devient l'identité de ces lieux et on peut dire l'odeur des lieux dans ce cas-là où on associe. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité en fait quand j'ai écrit ce titre parce que je me disais est-ce que c'est la matérialité du lieu à laquelle je pense qui émet des molécules qui seront ensuite traduites en représentation olfactive ou est-ce que j'inclus toutes les activités qu'on a dans ces lieux et qui vont elles-mêmes produire des molécules. Donc en fait, l'autre partie du titre, la puissance émotionnelle, vient d'une citation d'André Ollet, qui est un neurologue qui est décédé l'été dernier et qui a beaucoup travaillé sur l'olfaction et qui dit que ce qui frappe celui à qui une odeur vient de rappeler un fragment de son passé lointain, c'est le contraste entre l'immatérialité apparente de la cause et la puissance émotionnelle de l'effet. Alors, évidemment, ça ressemble beaucoup à la Madeleine, et je voudrais souligner le fait que ça n'est pas du tout le seul aspect émotionnel lié à l'odeur. Les odeurs peuvent apporter beaucoup d'autres émotions que celles des anamnèses, mais en tout cas, c'était à cette puissance émotionnelle que je vais essayer de... C'est de cette puissance émotionnelle dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. C'est vrai que on accorde peu de considération à l'odeur aujourd'hui, et en particulier les concepteurs du bâti accordent peu de considération. C'est sans doute lié à son immatérialité apparente, assez vraisemblablement, qui entre en opposition avec la tangibilité, la matérialité du lieu lui-même. Peut-être qu'elles sont considérées comme des ajouts fugaces, et c'est peut-être, ça explique peut-être pourquoi les concepteurs ou les gestionnaires de lieux ne s'y intéressent pas beaucoup. Et pourtant, les odeurs de gare, les odeurs de piscine, les odeurs de la cage d'escalier de mon immeuble, celles de ma rue au printemps ou celles de l'entrée du métro, toutes celles-là, elles attestent bien qu'il y a un lien entre les lieux et les odeurs, et peut-être aussi peut-être une valeur affective qui se construit à travers ces rencontres avec les odeurs dans les lieux ou les odeurs des lieux. Et donc ma pensée, ma question, la question, enfin ce sur quoi je travaille, c'est comment intégrer les odeurs à la pensée du cadre bâti, soit pour avoir des visées descriptives, soit avec des visées opérationnelles, c'est-à-dire avec l'idée de mieux concevoir cette place de l'odeur. Donc ma question, c'est comment se saisir de la puissance émotionnelle olfactive, comment arriver à les intégrer à la pensée du lieu, c'est-à-dire comment dépasser cette immatérialité apparente. Un petit peu d'écho. Faut que je le mette un peu plus loin, sinon... Plus près, d'accord. Donc comment dépasser cette immatérialité apparente et comment tirer parti de sa puissance émotionnelle. Alors on verra bien sûr qu'il y a déjà des recherches pour essayer d'en tirer parti. On pourra parler des enjeux éthiques. En fait, l'idée, c'est comment passer d'une pensée essentiellement spatiale, donc une pensée de l'architecture qui serait uniquement visuelle, à une pensée sensible. Et pour moi, la référence en la matière, c'est le géographe Yu Fu Tuan qui parle de passer d'une pensée de l'espace à une pensée des lieux. Et donc, à concevoir des lieux, ça veut dire tenir compte de toutes leurs dimensions sensibles. Juste un petit point de vocabulaire. Une odeur, ça dépend d'une source. Cette source est un objet qui émet des molécules qui sont détectables par l'odorat humain. Donc je limite la définition d'odeur aux représentations mentales qui sont générées par des molécules dites odorivectrices. Je choisis le terme odorivectrice, c'est André Ollé qui le propose, et puis c'est drôle, il le propose dans un de ses livres, et puis ensuite il ne l'utilise pas, il continue à utiliser le mot odorant. Mais on a tellement de mots polysémiques en français pour parler des odeurs que ça entretient une confusion. Et c'est pour ça que je fais le choix d'utiliser le mot odorivectrice pour parler justement de ces molécules spécifiquement détectées par l'odorat humain. Un autre petit point de vocabulaire, c'est le fait que je vais plutôt utiliser le mot flairer que sentir, puisque effectivement, là où en anglais on peut dire feel ou smell, en français on dit sentir et sentir. D'ailleurs en italien on dit aussi sentir pour entendre. Donc quand je fais des parcours commentés avec des étudiants italiens, des parcours commentés olfactifs, ils me parlent des odeurs qu'ils ont écoutées tout au long du parcours. C'est très 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 poétique, c'est très joli. Donc là je vais plutôt utiliser le mot flairer, même si je le tire un petit peu en français. Normalement ça désigne le fait de sentir activement, mais là, je vais l'utiliser pour dire, pour contourner un peu cette polysémie. Et puis aussi un petit point, c'est que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents en matière olfactive. Nous sommes génétiquement différents et nous sommes culturellement différents. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui explique un certain nombre de caractéristiques liées à l'appréhension olfactive, au fait, par exemple, qu'il n'existe pas de vocabulaire dédié pour décrire les odeurs. Il y en a quelques-uns, en fait, mais dans l'ensemble, on se réfère à des objets sources pour parler des odeurs, puisque comme nous ne sentons pas la même chose, nous tous, nous avons un nombre de capteurs extrêmement important. Notre patrimoine génétique, la famille de gènes la plus importante du génome humain est consacrée à la détection chimique, et en particulier à la détection olfactive. Ça, on le sait depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, en fait, nous ne sentons pas, ou je devrais dire, nous ne flairons pas pareil. Voilà. Nous n'émettons pas les mêmes odeurs, mais nous ne les flairons pas de la même façon. Une autre caractéristique importante c'est que nous sommes sujets au phénomène dit d'habituation, qui fait que, au bout de quelques minutes, dans une ambiance odorante, nous ne la sentons plus. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, même si, quand on va rester quelques temps dans cette pièce, pour vraiment sentir son odeur, il faudra sortir et revenir, et là, on saura comment elle sent. Et puis, cette habituation se joue aussi à l'échelle de la vie. Maintenant, les travaux, je vois Nicole qui hoche la tête, les travaux les plus récents montrent que, bien sûr, le vieillissement neuronal fait que, c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, l'habituation se joue aussi à l'échelle de la vie, et donc, plus une odeur est courante, plus on l'a rencontrée souvent dans sa vie, et moins on va la sentir. C'est la différence qui fait qu'on sent les choses. Donc, si on la rencontrait trop souvent, on va moins la sentir. Donc, même si les liens de l'odorat à la mémoire ont été beaucoup soulignés, il faut penser que cette notion de familiarité va beaucoup jouer sur les sensations olfactives implicites. Parce que là, c'est un autre chercheur qui travaille plutôt en psychophysique, qui s'appelle Egon Koster, qui travaille sur les ressentis qui ne parviennent pas à la conscience. D'ailleurs, c'est une des difficultés de cette question. Et je propose l'hypothèse que le rapport affectif de l'odeur au lieu se joue justement plutôt dans une relation qui va dépasser la simple réminiscence biographique, mais qui est construite sur des images olfactives de référence, ce que j'appelle des images olfactives de référence, et qui fondent la manière dont nous allons interpréter les odeurs. Parce que quand on entre dans un lieu odorant, on va immédiatement évaluer l'adéquation de l'odeur avec le lieu et où la situation où elle est sentie. Et de manière inconsciente. Et si le trio odeur, lieu, moment correspond à l'image olfactive de référence que nous avons, alors elle n'est pratiquement pas remarquée, elle pourra même ne pas être perçue. D'où l'importance de ce dont je parlais tout à l'heure, de la familiarité qui se joue sur des très grandes durées. Je vois qu'Edith n'est pas là, mais typiquement, moi, c'est ma première visite ici à Cerisy. Il y a de très fortes chances qu'en plus du fait que nous sommes génétiquement différentes, en plus, étant étrangère à ce lieu, je dois le sentir d'autant mieux qu'il est nouveau pour moi, alors que quand on y vit, le non familier, c'est la seule chose qui aura un peu de relief, alors que le familier va, pour l'essentiel, passer inaperçu. Donc la mémorisation olfactive, en plus, est le plus souvent implicite, et c'est la rencontre avec l'odeur, en dehors de son contexte initial ou habituel, qui va provoquer le phénomène donc, de Madeleine, et éventuellement donc la conscience du souvenir ainsi incorporé. Donc ce lien si souvent souligné de l'odorat à la mémoire se jouerait donc sur deux tableaux. D'une part, ce que Michel Serres appelle la fine pointe d'un apex rare, donc cette combinaison exceptionnelle qui, par un hasard de la vie, se retrouve. Par exemple, j'ai une personne avec qui j'ai fait des entretiens qui m'a décrit une odeur perdue depuis 30 ans. Et elle me dit, voilà, récemment, j'ai retrouvé une odeur perdue depuis 30 ans. Elle visitait des appartements et tout d'un coup, elle a senti cette odeur qui l'a ramenée, exactement comme Proust, à un souvenir d'enfance. Et elle m'a décrit cette odeur perdue depuis 30 ans. Donc, c'était cette fine pointe d'un apex rare décrite par Serres. C'est ça, c'est cette combinaison qu'on a rencontré, et c'est souvent l'enfance. L'enfance, c'est le lieu de l'empreinte, c'est le moment de l'empreinte. Et souvent, c'est l'enfance où on a rencontré cette combinaison exceptionnelle. Et quand on la retrouve, même 30 ans après, on la retrouve. Et donc ça, c'est ce premier lien à la mémoire. Et le deuxième, c'est la disparition pure et simple du familier pour une exacerbation de l'incongru. Donc cette immatérialité apparente de la cause de l'affect s'inscrit à la fois dans la variabilité physiologique et culturelle et sur le fonctionnement de l'odorat qui s'habitue d'autant plus vite que les bouquets d'odorivectrices sont familiers. Et ce qui est assez compliqué, c'est de se dire finalement les sensations olfactives sont très peu partagées. Donc en tant que concepteur, on peut se demander comment puisqu'on s'adresse à plusieurs personnes. Et donc, comment arriver à saisir le rapport affectif au lieu ? Ça voudrait dire qu'il faudrait intégrer leurs caractéristiques, intégrer les caractéristiques olfactives des lieux dans la conception architecturale. Ça voudrait dire arriver à déterminer quelles sont les images olfactives de référence qui sont partagées, quelles sont celles qui sont collectives. Et donc, il faudrait arriver à comprendre quel est ce lien et comment il se forme. Donc, une des clés, peut-être, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage associatif. Alors oui, là, c'est une photo c'est un extrait de film qui s'appelle Sunshine Cleaning. Et c'est l'histoire de deux sœurs qui montent une entreprise de nettoyage après crime. Et là, elles viennent d'entrer dans un appartement. Il n'y a pas eu de crime, mais bon, la personne morte est restée pendant quelques jours. Il n'y a plus de cadavre dans cet appartement, mais... Elles savent qu'il a été là. L'apprentissage associatif correspond aux situations où un stimule neutre acquiert une valence affective autre. Et dans le domaine olfactif, ce conditionnement associatif est très bien identifié. Et contrairement au conditionnement pavlovien classique, dans le cas olfactif, il peut être acquis en une seule occurrence, c'est-à-dire que, et en particulier dans les situations émotionnelles fortes, je parlais hier avec quelqu'un des odeurs d'hôpitaux, les hôpitaux sont des lieux où on vit des émotions fortes, et ça peut expliquer que ce conditionnement évaluatif apparaît assez facilement, c'est-à-dire qu'un état émotionnel associé à une ambiance, on va dire chimique globale, peut être facilement intégré. Il est très résistant à l'extinction. Il a été prouvé comme étant très résistant à l'extinction. Et la conscience de la relation de contingence entre l'odeur et l'émotion n'est pas nécessaire à l'établissement de ce conditionnement évaluatif. Donc il a été beaucoup étudié dans le cas des stimuli odorants. Par exemple, on a montré que l'humeur et les attitudes d'individus peuvent être subrepticement influencées par des odeurs de faible intensité, du type, on met des individus dans une situation de tâches stressantes en les exposant à une odeur et ensuite on va les réexposer et voir si ça a été reconfirmé assez récemment. Et il y a d'autres phénomènes relevant du conditionnement évaluatif subliminal qui ont été montrés dans le cadre d'apprentissage d'enfants et d'adultes. Alors dans un cas positif ou dans un cas négatif, on met des enfants dans une situation d'apprentissage en leur annonçant que la tâche est très difficile et en les exposant à ce que j'appelle moi des infra-odeurs, c'est-à-dire des odeurs à des niveaux infraliminaires. Et s'ils réussissent, on les met volontairement dans une situation de réussite. Ensuite, quand on va à nouveau les exposer à ces odeurs à des niveaux infraliminaires, ils auront des résultats bien meilleurs. On peut comme ça renforcer leur motivation. Alors ça a été démontré dans l'autre sens aussi, en mettant des enfants dans des situations de tâches insurmontables, dans des situations de stress, et ensuite en les exposant aux mêmes ambiances olfactives, on obtient exactement l'inverse, c'est-à-dire une démotivation et un taux d'échec plus important. Donc ça, c'est le conditionnement. Mais ce conditionnement n'est pas univoque. On peut avoir l'inverse, c'est-à-dire que une odeur ou une infra-odeur, une odeur à un niveau infraliminaire, peut avoir un impact affectif, mais à l'inverse, une humeur ou une émotion peut avoir un impact sur ce qui est flairé. C'est-à-dire que, l'état dans lequel nous sommes ou la façon dont, de temps en temps, je fais sentir des produits aux étudiants en leur annonçant c'est ceci ou c'est cela, et les mots que je vais utiliser vont suffire. Mais il y a eu un travail assez intéressant qui a été mené dans des bâtiments universitaires où le bâtiment avait des toilettes qui avaient été odorisées avec différents produits. Et ensuite, on a demandé aux utilisateurs c'est une expérience qui a duré quelques semaines, on a demandé aux utilisateurs de ces toilettes, ensuite, on leur a fait sentir les produits qui avaient été utilisés, et on leur a demandé d'évaluer ces odeurs. Et les personnes qui considéraient que le passage par les toilettes était une simple nécessité évaluaient négativement ces odeurs, quelles qu'elles soient, ces différents produits, alors que ceux qui considéraient que le passage par les toilettes était une pause relaxante eux, évaluer positivement les odeurs. Donc là, c'est plutôt l'idée qui ressort de ça, c'est que c'est que la façon dont on va évaluer l'odeur dépend du rapport qu'on a à ce lieu-là, en l'occurrence. Voilà. Bon, en plus, on a montré que ce type de conditionnement marche plus facilement pour les valences négatives que pour les valences hédoniques positives. C'est ce qu'on appelle la symétrie affective, mais je vais passer. Donc, je reviens à mon propos, c'est-à-dire se saisir du rapport affectif au lieu, qui implique donc d'appréhender ces immatérialités, donc le paradoxe du stimulus qui n'est pas obligatoirement perçu, en tout cas toujours différemment par différentes personnes, et qui inscrit dans les histoires individuelles des rencontres olfactives d'une part, et celles de ces effets parfois complètement inconscients ou pas obligatoirement associés à leur cause première d'autre part. Donc la puissance émotionnelle de l'odeur des lieux s'inscrit dans une mémoire qui est implicite et associative, qui est essentiellement personnelle. En fait, l'odeur va se parer du manteau émotionnel tissé par chaque corps et en une seule rencontre ou dans la répétition de celle-ci. Donc, se saisir du rapport affectif-olfactif au lieu n'est pas si simple, quelle que soit la visée. Donc, la visée, ça pourrait être la construction d'une identité propre au lieu. Ça peut être des tentatives manipulatoires. Et ça peut être aussi des démarches artistiques. Là, je vous ai mis une œuvre de Brigitte Nahon, que j'aime beaucoup. Je trouve intéressante qu'elle raconte cette immatérialité, puisque c'est une balance avec des galets d'un côté. Alors, je ne vous raconte pas le scénario décrit par l'artiste. Je vous dis simplement, c'est une balance. Et d'un côté, on a des produits odorants dans des bouteilles. De l'autre côté, c'est galets. Et l'odeur, elle disparaît toujours. Cette fugacité dont je parlais tout à l'heure, pour moi, c'est assez représentatif du fait qu'on est dans cette immatérialité. Elle finira toujours par disparaître. Il y a déjà beaucoup de tentatives pour se saisir de la puissance émotionnelle de l'odeur dans les lieux. Il y a des pratiques de gestion des odeurs dans les lieux. Nous en avons tous. Nous ouvrons nos fenêtres à certains moments parce que nous voulons aérer, mais souvent ça implique une appréhension olfactive des lieux dans lesquels nous nous trouvons. Et ça veut bien dire aussi qu'il y a un partage, puisqu'on décide à un moment que c'est le moment de renouveler et de modifier l'air. Alors, il y a des utilisations de produits odorants avec l'idée d'agir sur les ressentis et les humeurs. Il y a une discipline qui s'appelle l'aromacologie dont on peut discuter. Dans le marketing olfactif, on essaye d'obtenir des comportements à partir de l'odorisation des objets et maintenant des lieux. Dans les pratiques artistiques, c'est souvent l'idée... Alors, je mets de côté les pratiques artistiques qui tentent de refaire des effets Madeleine. Souvent, je trouve les moins intéressants, mais il y en a beaucoup qui cherchent à donner un relief sensible supplémentaire, à apporter autre chose avec l'utilisation d'odeurs. Et puis, il y a aussi, dans le domaine des sciences de la propagation, qui relie la question de la propagation à la question de l'appréhension olfactive, toutes les questions relatives aux nuisances des gens qui sont riverains de lieux qui sont très fortement odorants, des usines de production de levure, de l'élevage industriel, des sites de compostage industriel. Enfin, la liste est très 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 longue. Et donc, on va avoir deux grands axes stratégiques quand on veut travailler sur l'odeur des lieux. Ce sont des axes stratégiques qui sont presque opposés. Il y a une première stratégie qui va consister à recréer de la familiarité odorante. Et il y a une autre stratégie qui va chercher à prendre appui sur un décalage. C'est une stratégie un peu plus risquée, puisque si on fait un décalage, si le décalage est trop grand, on a le risque d'une évaluation négative. Je vais vous expliquer ça. Donc la première, c'est la congruence. Alors c'est pas un mot courant en français, le mot congruence. En fait, ce sont les articles en marketing qui utilisent beaucoup ce terme, qui est en fait une traduction littérale de l'anglais, comme souvent en marketing, congruency. Alors qu'en français, c'est plutôt un terme littéraire ou alors un terme médical qui désigne l'emboîtement parfait de deux articulations. Et dans le cas du marketing, alors là, ce que je vous ai mis comme illustration, c'est un travail qui a été fait pour une fois, qui n'était pas sur l'augmentation des ventes en odorisant des lieux, qui était fait sur l'appréhension de boîtes de nuit en fonction des odeurs qu'on allait y mettre. Donc, a été fait par une équipe anglaise. Pendant quelques semaines, ils ont odorisé des boîtes de nuit avec différents produits odorants. Et ils se sont aperçus que, quel que soit le produit, ça ne changeait rien. Je ne devrais pas dire comme ça. C'est-à-dire que la situation témoin sans odeur était toujours moins bien évaluée que toutes les situations avec odeur. Parce qu'un des problèmes des boîtes de nuit, c'est que depuis qu'on n'y fume plus, on se sent mutuellement. Et donc, effectivement, on essayait de voir, et il y avait, donc la soirée était considérée comme un peu plus animée, l'humeur un peu plus, vous voyez, je vous ai mis les petits questionnaires que les gens avaient à remplir, donc de quiet à active, etc., etc. Donc, c'est juste pour illustrer un peu que l'odeur fait désormais partie de l'arsenal du marketing sensoriel, d'autant plus que la concurrence des ventes en ligne fait que aujourd'hui l'appréhension sensible des lieux de vente devient cruciale, c'est-à-dire que l'expérience de l'achat doit être multisensorielle par rapport à l'expérience de l'achat derrière un écran. Et donc c'est pour ça qu'ils se mettent beaucoup à tenter d'essayer de rendre cette expérience la plus multisensorielle possible, bien qu'effectivement on peut s'interroger déjà d'un point de vue scientifique, une science dont je devrais l'appeler discipline peut-être, une discipline dont l'objectif de toute façon c'est vendre, c'est assez difficile à considérer réellement avec sérieux, d'autant qu'ils sont tous à la recherche d'universaux qui sont, à mon avis, très difficiles à trouver. Je crois que... Je ne me souviens plus, c'était pour cette diapo que j'avais prévu d'en parler. Ils ont, par exemple, je vais vous donner un exemple qui me paraît assez éclairant. Par exemple, aux États-Unis, on fait une expérience d'odorisation de vêtements de prêt-à-porter pour hommes et pour femmes. Et on les odorise avec des odeurs qui ont préalablement été déterminées auprès d'un panel comme étant plus masculines et plus féminines. Et les conclusions qui sont tirées de cette expérimentation sont, oui, si on odorise un rayon pour hommes avec des odeurs masculines, on va vendre plus de vêtements masculins. Et si on odorise un rayon à vêtements féminins avec des odeurs féminines, on obtient plus de ventes. Et on en conclut sur une congruence de genre. Que l'important dans l'odorisation des lieux, c'est la congruence de genre. Alors qu'on devrait plutôt s'interroger, me semble-t-il, sur l'image olfactive de ce que c'est qu'une odeur masculine aux États-Unis et ce que c'est qu'une odeur féminine. Et assez vraisemblablement, quand on a demandé au panel d'évaluateurs, ce sont les odeurs qu'ils ont senties préalablement sur des hommes ou sur des femmes. Et donc, il y a de fortes chances que, si on regardait d'un peu plus près, on s'apercevrait que les odeurs en question renvoient à des grands parfums, enfin des parfums qui ont été beaucoup portés dans les années précédentes, puisqu'il y a des modes, vous savez, en la matière. Il y a d'assez fortes chances qu'il n'y ait pas d'universaux du tout. Mais par contre... Très, très souvent, les articles, les études en marketing olfactif font ce genre de raccourci extrêmement rapide. Voilà, c'était pour remettre un petit peu en cause la question de la congruence. Et d'ailleurs, l'autre mot que j'ai mis sur ma diapo, c'est le mot « misfit ». Et là, par contre, je n'ai pas trouvé de traduction suffisamment que je trouvais. Mais puisqu'il y a des spécialistes, on va peut-être en trouver un. C'est l'équipe de Egon Koster dont je parlais précédemment. Et de non-adéquation, je ne sais pas comment, voilà. Pareil, mais là. Parler des accès, mais là, dans ce cas-là, ce serait une odeur. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est l'équipe de Coster dont je parlais tout à l'heure, qui travaille beaucoup et qui a fait un essai de travail sur les odeurs des lieux. Et ils ont montré que, en fait, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'image olfactive de référence. Et lui montre assez bien, par un protocole un peu plus sérieux que ceux dont je parlais précédemment, que quand l'odeur ne correspond pas à cette image olfactive de référence, on a qui lui qualifie de misfit, de fait que... D'ailleurs, dans les entretiens que j'ai faits, une personne m'a dit « ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas, ça ne va pas ». Là, je vous ai mis une photo d'une œuvre de Peter de Kuyper, qui est un artiste belge qui fait beaucoup de choses avec les odeurs. Et il a fait, en l'occurrence, là, c'est une... Alors, de loin, vous ne voyez peut-être pas, c'est pour ça que j'avais mis un petit gros plan, là. C'est une salle de bain qui est entièrement réalisée en pâte de dentifrice. Et l'autre pièce est une pièce qui est entièrement réalisée en mégots de cigarettes. Donc ce sont deux petites pièces qui se visitaient. Et là, il montre bien, cette idée qu'on peut, donc c'est un peu la stratégie dont je parlais tout à l'heure, s'inscrire dans les attentes de ce que va sentir le lieu. Donc là, évidemment, il travaille sur une vraie redondance. Et dans ce cas-là, on pourrait considérer que des odeurs ajoutées à un lieu a une fonction de renforcer son identité attendue, même si la familiarité peut la rendre à certains degrés inolfactive, et elle n'en aurait pas moins des effets affectifs. Il faut aussi ajouter que les pratiques d'odorisation en général, et il ne faut pas l'oublier, parce que peut-être par rapport à ce qu'on va parler tout à l'heure de la question sonore, dans le cas du son, aujourd'hui, on peut faire une prise de son d'un lieu et ensuite travailler ce son et le déformer. Et voilà. Dans le cas des odeurs, on est dans un contexte complètement différent puisque on n'enregistre pas les odeurs, on ne fait que les imiter. Et d'ailleurs, la science de l'imitation, je ne devrais peut-être pas utiliser d'ailleurs le mot science, je devrais utiliser au contraire le mot le savoir-faire des créateurs parfumeurs, il repose essentiellement justement sur un savoir empirique. C'est en train de changer avec les méthodes d'analyse contemporaines. Maintenant, on commence à attribuer ce qu'on appelle des valeurs d'activité olfactive aux molécules qui sont repérées comme étant des odorivectrices. Mais pour l'instant, si vous achetez un parfum orange, il y aura quelques molécules communes avec l'odeur d'une orange vraie, mais il y en aura aussi d'autres. Et d'ailleurs, nous avons tous appris, il y a un exemple très très courant, c'est que la vanilline, c'est une des molécules odorivectrices présentes dans la vanille. Et en fait, dans notre vie gustative, on est très très souvent confronté à la vanilline et moins souvent à l'ensemble des odorivectrices de la vanille vraie. Il y en a certains qui le savent parce qu'en fait, dans la population européenne, il y a 8% des gens qui ne sentent pas la vanilline, qui sont anosmiques à la vanilline. Et l'indice, c'est si vous n'aimez pas la glace à la vanille cheap, c'est que sans doute vous ne sentez que le sucre puisqu'elle n'est odorisée pratiquement qu'avec de la vanilline. Et comme vous ne la sentez pas, vous dites c'est quoi cette glace voilà. Alors que quand il y a de la vanille vraie, vous allez sentir toutes les autres molécules odorivectrices. Et pour vous, c'est ça, la glace à la vanille. Je reviens toujours à une œuvre de Peter de Kuyper. Et là, c'est le contraire. Il a fait une œuvre qui s'appelle le Garbage City Holiday Park, dans lequel il a fait des petites cabanes avec des ordures. Mais il a fait le contraire. Là, il a joué plutôt sur le décalage, puisque ces igloos étaient jonchés de feuilles de menthe fraîches ou de différents produits qu'on foulait quand on entrait. Et là, donc, il jouait sur les attentes de ce que ça devait sentir, ces montagnes d'ordures. Donc lui, là, il faisait le contraire. Et je pense que... ces deux stratégies-là qu'on peut avoir quand on travaille sur les odeurs dans les lieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que l'odeur est partie prenante de l'identité sensible du lieu, qu'elle soit flairée ou pas, puisque comme je vous le disais, quand elles sont très familières, elles ne sont pas forcément interprétées comme telles, Eh bien, c'est bien au-delà du caractère hédonique propre de l'odeur, c'est bien son caractère familier qui va être en cause dans les effets affectifs possibles de cette odeur. Dans le monde animal, les signaux chimiques ont une fonction de réassurance. Benoît Chahal, qui est à l'origine qui était éthologue pour les animaux et qui est devenu éthologue plutôt pour les humains dans la suite de son travail, dit que finalement, si on se réfère aux pratiques de flairage des vêtements d'un conjoint absent ou du fameux objet de transition dont on a parlé un petit peu hier, eh bien, il y a des chances que cette fonction de familiarité sémiochimique rassurante qui existe chez les animaux perdure aussi chez l'homme. D'ailleurs, Benoît Chahal parle d'une femme qui voyage avec une taie d'oreiller, d'un oreiller qu'elle a eu quelques jours chez elle, et qu'elle transporte avec elle à l'hôtel pour s'assurer un endormissement facile. Donc là, vous voyez, c'est en plus une pratique que Chahal qualifie de égo-olfaction, qui sert à la rassurer pour lui garantir de bien s'endormir. Et donc, se saisir du rapport affectif des odeurs au lieu pourrait alors avoir d'autres enjeux qu'être au service de la consommation, je parlais tout à l'heure. Il faudrait arriver à comprendre l'inscription dans le champ de l'affectivité des identités olfactives des lieux. Et je fais l'hypothèse que ça serait plus relatif au mode de flairage des odeurs que de l'identité des odeurs elles-mêmes. C'est-à-dire les modes de rencontre de ces odeurs. Est-ce que on entre dans la pièce, on rencontre l'odeur brutalement, ou est-ce qu'on est en train de se déplacer dans un bâtiment et on a un crescendo olfactif? Sur la question du caractère hédonique des odeurs, c'est-à-dire est-ce qu'elles se sentent bon, elles ne se sentent pas bon, il y a beaucoup d'auteurs qui n'interrogent pas du tout cette question et qui considèrent qu'il y a deux catégories d'odeurs, bonnes ou mauvaises. Et je m'inscris en faux. Lucille Grésillon, qui a été la thésarde de Nicole Mathieu, a montré que dans le quartier de la Huchette, des odeurs qui sont considérées comme positives dans la culture de référence en question, la France, le quartier de la Huchette, des odeurs de viande grillée, deviennent absolument insupportables aux habitants de la Huchette parce qu'elles les envahissent continuellement. Elles remettent peut-être en cause l'idée du chez-soi, qui est le lieu de la maîtrise de des sensations. Voilà. Il y a entre autres. Moi, j'ai une de mes informatrices qui m'a parlé d'odeur de boulangerie qui envahissait un immeuble. Pourtant, alors l'odeur du croissant frais en France, elle est quand même plutôt considérée comme positive. Et là, de la même façon, elle arrive dans la salle de bain, elle est là à 5h du matin, et là, elle n'est pas considérée comme positive. Et dans ces situations-là, cette familiarité olfactive rassurante personnelle, elle est masquée, puis surtout, elle est vraiment remise en cause par le misfit odorant, là, en l'occurrence. Et donc, l'aspect négatif généré, il n'est pas seulement spatial, il est aussi temporel, parce que peut-être qu'une faible fréquence pourrait être considérée avec humour, et d'ailleurs, c'est ça ce qui se passe. Le premier effet du misfit, c'est plutôt drôle. Dans les rapports aux autres, dans les entretiens que j'ai faits, les gens m'ont beaucoup parlé des odeurs des autres. Et en fait, on peut vous parler de l'odeur d'un collègue qui pue du bec avec humour, mais il y a un moment où ça tourne et ça devient une odeur complètement insupportable. Voilà. Et je pense que c'est relatif à la fréquence de la rencontre, la fréquence du misfit. C'est-à-dire, d'ailleurs, par rapport à la viande grillée, une des personnes que j'avais interrogées il y a quelques années me parlait de l'odeur de merguez au printemps dans son bureau. Elle me disait, ça y est, ça sent, quand il commence à faire beau, les gens font des barbecues et ça sent. C'est à peu près la même odeur que dans le quartier de la Huchette, mais pour elle, ça signale le printemps. Il va y avoir quelques barbecues. Elle va les sentir alors qu'elle est dans son bureau. Ça lui évoque la fête, ça lui évoque l'été, elle est contente. Mais évidemment, si c'était tous les jours et si c'était, ça deviendrait quelque chose qu'elle considérerait plus négativement. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Ça veut dire que je pense qu'il faut tenir compte des aspects temporels des odeurs, de la présence des odeurs dans les lieux. Donc non seulement des moments clés, non seulement les répétitions, mais également ce que Joël Kando, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la mémoire et sur les odeurs, appelle les mélodies olfactives. Par exemple, il décrit un chef cuisinier qui, dans sa cuisine, est capable de dire quel est l'état du beurre en train de fondre, à quel degré, à quel stade il est. Voilà.
À l'odeur.
À l'odeur, oui, oui. Mais c'est la mélodie. Mais je veux dire, tu le fais aussi, Julie, quand tu fais la cuisine. Il y a un moment où... Si... Non. Non. Non, mais pas forcément sur le beurre. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous connaissez une succession odorante. Et dans la cuisine, on le sait, on connaît la succession odorante. Olivier Watley, qui a travaillé sur la transmission des savoir-faire culinaires via Internet, montre très bien que, en fait, il y a un certain nombre d'indices olfactifs qui disent bah, le riz est cuit, quand tu commences à sentir l'odeur du grillé, alors tu peux enlever le truc du four. Enfin voilà, il y a l'idée qu'il y a une succession odorante. Et cette idée de mélodie, elle marche aussi à l'échelle des lieux, parce que les lieux ont des successions odorantes. Et d'ailleurs, je pense qu'une personne qui était pionnière en la matière... Lucienne Robin, qui était anthropologue, avait écrit un livre sur l'univers odoriférant du Haut-Provençal. Et elle avait émis l'hypothèse que ces successions odorantes dans un territoire agricole étaient des déclencheurs d'action. C'est-à-dire, et je trouve que ça se retrouve un petit peu... Alors, dans un contexte complètement différent, les Honges, qui sont un peuple de... Enfin, qui, maintenant, une culture presque disparue, comme tout, souvent ces cultures, qui vivent dans des îles en Mélanésie et qui ont un calendrier olfactif, en fait. Et les saisons sont décrites par les périodes d'odeur, le jacquier mûr, le moment où le vent vient de la mer et où l'ambiance odorante, il y a ça. Alors, en plus, chez les Honges, il y a un partage des rêves qui fait partie de leur culture. Et s'ils rêvent tous ensemble d'une odeur, alors ils considèrent qu'il y a une action à avoir. C'est-à-dire qu'il y a un travail aussi. Mais bon, je passe. Et donc, j'en reviens à ma question de la conception des lieux odorants. C'est donc l'inscription dans les aspects spatiaux et temporels du flairage, la question des mélodies olfactives, c'est-à-dire des successions odorantes qui construisent notre appréhension au lieu, et les images olfactives de référence, d'arriver à trouver en quoi elles sont personnelles et en quoi elles peuvent être partagées. Et donc, concevoir des lieux odorants, ça serait comprendre des mélodies locales, s'y inscrire, les souligner ou au contraire s'en affranchir en fonction de ce qu'on veut faire. Car si les sensations olfactives et leurs interprétations sont individuelles, la présence dans l'odeur dans les lieux est souvent impermanente et donc liée à tous ces cycles qui peuvent être des cycles saisonniers, des cycles d'activité, des processus dans les activités humaines. Et donc il ne s'agirait pas obligatoirement de rajouter des produits odorants dans un lieu, mais plutôt de bien comprendre les temporalités odorantes, donc comme je le disais tout à l'heure, les modalités d'apparition, de maintien et disparition, et leurs interprétations. Et donc, toutes ces émotions préalablement vécues dans des mélodies olfactives spécifiques en des lieux particuliers pour être mises au service de la gestion et de la conception des lieux pour assurer des repères spatiaux et temporels constitutifs d'identité locale, peut-être en générant de la réassurance par de la familiarité. Une autre application, je pense, enfin, dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est tous les lieux qui sont privés de lumière naturelle. Peuvent être, à mon avis, pourraient gagner avec cette question olfactive, justement parce que, comme la lumière est un donneur de temps, du temps qu'il fait et du temps qu'il passe, les odeurs pourraient peut-être se substituer à ce rôle de la lumière, pas forcément du temps qu'il fait, mais d'un cycle, d'un passage et d'une évolution. Ça pourrait peut-être jouer, et puis, bon... pour le repère temporel et spatial. puisque, en fait, les images olfactives de référence de lieux sont souvent des images olfactives de moments, c'est-à-dire ce sont des lieux-moments qui sont... on parlait tout à l'heure, quand on a fait le parcours tout à l'heure, avec Gina, on a parlé de l'odeur du tilleul. Ça ne dure pas très longtemps, mais ça marque un lieu et un moment, ce tilleul. Voilà. Et donc, dans les stratégies dont je parlais tout à l'heure, on peut mettre en place des décalages d'odeur qui pourraient générer des contrastes avec des images de référence, des images olfactives de référence. Et donc, à ce moment-là, l'odeur habituelle est révélée en creux. Comme je vous le disais, si l'odeur est inhabituelle... Ah ben, oui,
non, mais voilà. C'est là qu'il fallait faire attention.
Voilà, bien sûr. Ah ben, de toute façon, alors évidemment, il y a une question éthique qui se pose, puisque c'est la question, bien sûr, de la manipulation dont je parlais tout à l'heure, puisque, en plus, le conditionnement affectif, olfactif, est assez fort, assez... peut mettre en place en une seule fois. Pour revenir sur... avant de reparler de cette question éthique, la familiarité olfactive, elle est fondée sur les apprentissages, et surtout sur les apprentissages de l'enfance, et elle repose sur le phénomène d'habituation. Pour pouvoir sentir à nouveau des odeurs familières, il faut s'en éloigner et les retrouver à nouveau. Évidemment, plus ces odeurs sont familières, et plus il faut s'en éloigner longtemps. Et en plus, ça veut dire aussi que plus on a vécu longtemps, et plus il faut s'éloigner longtemps des odeurs familières pour pouvoir à nouveau les sentir. Donc, pour pouvoir sentir l'odeur de chez soi, eh bien, il faut s'en éloigner le plus longtemps possible pour pouvoir le sentir cette odeur de chez soi, juste l'espace de quelques instants, et ensuite, on va à nouveau ne plus le sentir. Donc, se placer dans des contextes peu familiers ou inolfactés, c'est une façon de redécouvrir. C'est une des caractéristiques du voyage. C'est-à-dire qu'on va aller sentir des odeurs inolfactées et on va revenir pouvoir à nouveau sentir ses odeurs habituelles pendant un petit moment. Donc là, je vais pouvoir reparler de la question de l'éthique. Tu vois, j'ai fait un petit saut. Voilà. Donc, les enjeux pour moi, c'est de cette saisie possible de la puissance émotionnelle olfactive, c'est enrichir la portée sensible des lieux, mais s'interroger toujours sur la finalité. C'est surtout ça, en fait. La question éthique, elle se pose à travers la finalité, puisque le risque, c'est toujours la tentation manipulatoire. Heureusement, je pense que les caractéristiques de l'odorat font que cette manipulation tant recherchée par les vendeurs de tout poil peut très facilement se retourner contre eux, puisque si vous odorisez une chaîne de magasins avec une odeur signature comme ils le font si souvent, et que nous, acheteurs, nous avons une expérience négative dans ce lieu, eh bien, nous fuirons tous les autres. Puisque nous aurons été marqués par cette expérience, en une seule occurrence, par cette expérience négative. Donc, j'ai espoir qu'on puisse utiliser les odeurs à d'autres fins qu'à des fins manipulatoires, et au contraire, renforcer ou mettre l'odeur au service d'une appréhension sensible, je dirais, à d'autres fins que mercantiles. Voilà. Je m'arrête là.
Mais je proposerais qu'on prenne des questions déjà, puis après, il y a des questions qui vont aussi s'adresser à l'ensemble, je pense, des interventions, mais peut-être plus spécifiquement, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui surgissent? Oui, dans le fond. Là. Un, deux, trois, oui. 4, 5,
oh. Oui. Sylvain Allemand, merci doublement pour cette intervention qui nous éclaire la manière dont l'odeur peut concourir au lien émotionnel de ce lieu, et puis pour les considérations éthiques que vous avez développées à la fin. Ma question portait sur l'odorat, ou encore la faculté olfactive, c'est-à-dire est-ce que vous avez des éléments susceptibles de nous éclairer sur la manière dont les environnements peuvent atrophier ou pas cette faculté olfactive au fil du temps. Alors, sans aller jusqu'à solliciter nos amis paléographes, est-ce qu'on peut dire que, grosso modo, depuis l'instant où l'homme et les femmes ont cessé d'avoir à chasser, à cueillir, etc., et qu'ils se sont retrouvés grosso modo dans des sociétés sécurisées qui les incitent à flairer un peu moins le danger, est-ce que, grosso modo, il y a une atrophie de cette faculté olfactive et des environnements plus favorables que d'autres, en espérant que ça fasse sens?
C'est ce que dit Freud, mais un chercheur d'un autre domaine, d'ailleurs en chimie, a montré avec malice que Freud était sans doute anosmique et qu'il l'a sans doute été assez tôt dans sa vie. Il ne faut pas oublier qu'il a subi plusieurs opérations dans cette région et qu'il était un grand fumeur de cigares. Et donc ça, c'est ce que dit Freud. C'est ce que dit aussi la philosophie occidentale, enfin toute une part, j'en suis pas si sûre. Et au contraire, j'allais dire que même le conditionnement olfactif, affectif olfactif dont je parlais précédemment semble plutôt plaider pour l'inverse, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas consciemment notre odorat, mais qu'il y a de fortes chances qu'en fait, il ait un impact important sur nous, même si... Alors, est-ce qu'il serait culturellement atrophié? On pourrait en discuter. En plus, nous sommes Français, nous sommes quand même... la part olfactive dans notre vie n'est pas si petite que ça.
Peut-être on va prendre les 5 interventions qui surgissent spontanément, puis on reprendra à la fin s'il y en a qui ont des questions non plus.
Bonjour, merci d'abord pour votre présentation. J'ai une toute petite question. Je pensais un petit peu au lieu à caractère patrimonial, et je me disais qu'on a généralement la nostalgie justement de l'ambiance du lieu. Et finalement, enfin, on a aussi tendance à restituer le bâti sans pour autant vraiment restituer l'ambiance du lieu. Et cette ambiance olfactive, finalement, elle fait aussi partie de l'âme du lieu. Est-ce qu'il y a une manière, ou comment, ou peut-on conserver, restituer ou sauvegarder l'ambiance olfactive d'un lieu, surtout à caractère patrimonial?
Oui, c'est ça. Je pense vraiment, pour moi, je trouve que c'est une question super délicate parce que, par exemple, je pense qu'il y a un courant aux États-Unis de conservation patrimoniale intégrale. Et donc, il y a une historienne qui s'appelle Mélanie Kliesch, si ma mémoire est bonne, qui pose cette question-là. Je crains que c'est oublier la question de la réception. Bien sûr, même si on pouvait reconstituer les odeurs originelles, par exemple, dans un château comme celui-ci, la pratique courante à l'époque où il a été construit, c'était de faire pipi dans les âtres. C'était ça la pratique absolument habituelle. Est-ce que ça aurait un intérêt de reconstituer l'odeur originelle? Et la comprendrions-nous de la même façon? Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les modalités de rencontre avec les odeurs, est-ce que le fait de remettre l'équivalent des mêmes odorivectrices dans un lieu pourrait restituer les modes de rencontre avec ces odeurs? Voilà. Et j'aurais presque envie de dire, est-ce qu'il ne faut pas au contraire se dire, faut-il tout garder? Faut-il tout conserver, et ne faut-il pas aussi accepter de faire le deuil d'un certain nombre de choses? Une odeur, c'est éphémère, et au fond, on pourrait prendre la position inverse et dire, après tout, oui, nous avons perdu cela n'existe plus, dont acte. Faut-il tout garder? Je trouve qu'on pourrait se poser cette question-là. Voilà. Donc, voilà, je suis partagée sur la question du patrimoine olfactif.
Ça a lié avec ce dont je voulais parler. Vous avez parlé d'apporter des odeurs à des lieux sous une forme même commerciale, mais en vous écoutant, je me suis dit, mais les matériaux ont des odeurs.
Oui.
Les murs ont des odeurs. Les bois ont des odeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, dans la matérialité d'un édifice, une mémoire olfactive qui existe simplement dans les matériaux, dans la question de l'humidité, enfin voilà, il y a, qui s'inscrit dans la pierre. Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous avez travaillé ou pas?
Ouais. Si, j'y ai réfléchi, mais justement, l'odeur, sa nature, c'est de disparaître. Enfin, je devrais dire, les odorivectrices, leur nature, c'est de disparaître. Et donc, bien sûr, il y a des matériaux qu'on utilise dans la construction qui sont odorants, mais ils le sont de façon fugace. Et d'ailleurs, les odeurs qu'on sent ici sont plutôt liées à la présence du vivant, c'est-à-dire qu'une moisissure, c'est quelque chose qui est vivant, c'est pas le bois. Et je pense que voilà, ce bois qui, il y a quelques siècles, il est pratiquement inodore, il faut vraiment aller... et ce n'est de toute façon pas l'odeur originelle. Donc c'est aussi pour ça, c'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'en tant que concepteur de lieu, on va avoir tendance à considérer que l'odeur, c'est un truc qui est rajouté, puisque au bout d'un moment, même l'odeur du bois disparaît. Mais c'est vrai, je pense que la construction traditionnelle japonaise, par exemple, utilise des bois pour leurs propriétés odorantes. Les deux bois les plus utilisés au Japon sont des bois, donc c'est une variété de cyprès et puis l'autre, donc ce sont deux résineux, et c'est une caractéristique qui est prisée.
Voilà. Bonjour, Olivier Zatoni, Université de Nice. Et je souhaitais rebondir sur cette question des matériaux, de l'atrophie des facultés olfactives. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, la multiplication des lieux anthropisés, des lieux donc occupés par l'humain, ne s'accompagne pas d'une multiplication des odeurs, si bien qu'on serait dans un paysage d'odeurs aujourd'hui bien différent de ce qui pouvait être avant, c'est-à-dire dans la nature? Est-ce qu'on est dans un paysage plus riche d'odeurs aujourd'hui avec la multiplication des lieux? Donc là, on rebondit sur le rapport au lieu et ouais. ce spectre odorifère qui se serait étendu de là.
Ouais, c'est une super bonne question. Je ne sais pas s'il est tendu, en tout cas, il est différent. Je parlais tout à l'heure de la question de la schizoolfaction, enfin, ce que j'appelle la schizoolfaction, en référence à la schizophonie décrite par Murray Schafer, qui ne devait pas exister il y a 100 ans, puisque cette fine pointe d'un apex rare, elle est justement exceptionnelle et on la rencontre de façon exceptionnelle. Mais en fait, tous les produits odorisés aujourd'hui, industriellement odorisés, ils le sont de façon extrêmement répétitive et parfaite. Et donc, voilà. Alors, est-ce que ça uniformise? C'est pas sûr, parce qu'il y en a, il y a une grande variété, mais en même temps, il y a des modes. Je veux dire, l'odeur de la soupline, c'est pas la même que celle d'il y a 10 ans. Elle évolue, et en même temps, on va la sentir sur une personne et sur une autre. Elle sera plus unique, quoi. Voilà.
On va oui et après, mais après on...
J'étais un peu longue, je suis désolée.
On va arrêter, on va les garder pour après, parce que sinon les autres intervenants...
Oui, je suis désolée, j'étais un peu longue.
Donc, ici et après...
Non, deux remarques et puis une question. Une remarque qui m'a beaucoup intéressée, que je trouve très intéressante dans ce que tu as dit, qui serait une remarque épistémologique, où tu as dit que, tu as bien précisé ce que nous savons par ailleurs, mais tu l'as précisé, qu'on ne pouvait pas véritablement enregistrer de l'odeur. Ça, je trouve que ça peut être très important pour le travail qui peut se conduire sur la sensorialité, parce que dans le domaine du son, nous avons affaire à quelque chose qui est devenu une pratique que plus personne ne repère vraiment et que je trouve est un véritable handicap et une véritable question épistémologique, qui est celle de la question du son direct et du son enregistré. Et qui, en plus, que moi, je pars de l'hypothèse, quand je vois les collègues partir avec des tas de micros, etc., pour enregistrer, je me dis, mon Dieu, ils ont tellement peur qu'effectivement, le mot le dit même, la prise de son, cette capture de son qui est ce qui peut être dangereux, parce que moi je sais que par ailleurs c'est très dangereux tout ça, et que ça fait très peur, eh bien on va l'enregistrer, alors après évidemment, on va le passer dans les machines, tout ça et tout, donc on l'aura à moitié tué. Donc ce qui me semble, ou du moins en tout cas, on aura mis sa petite patte dessus, et on l'aura signé, ce qui est aussi très contemporain, et on aura perdu du collectif. Donc là, il y a quelque chose qui paraît un peu une espérance épistémologique, en tout cas intéressante, méthodologique aussi, tout ça se sent très fortement, qui m'a beaucoup intéressé. Deuxièmement, tu as fait aussi mention de ce très beau livre, pionnier, je crois, dans ton domaine, tu me diras, mais qui avait été préfacé par Chenu sur le Haut Provençal. Bon, moi, c'est mon pays, donc ça m'intéresse, notamment par Robin, hein,
Lucien Robin.
Et là, il y a la notion, je crois, de seuil par rapport au lieu qui me semble déterminante, qui est la notion de seuil olfactif. Mm-hmm. Et ce seuil olfactif, notamment, il est très important. Moi, je vois, je suis dans un pays dans lequel il y a une fête de la lavande, je pense qu'à Nice, c'est la même chose. Et la fête de la lavande que nous avons, nous, dans le Sud, ne peut être, c'est vraiment le moment sacré, le moment qui crée du collectif, le moment qui crée du lien, qui est une arroseuse, nous sommes au mois d'août, une arroseuse qui passe avec de l'eau, mais avec la lavande. Et ça, il y a toujours des discussions sur c'est de la vraie lavande, ça sent pas comme autrefois, etc. Donc je crois que c'est cette notion sur le seuil que nous, au présent, on a thématisé sur la question de l'effet de seuil de rentrée. Quoi. Dernière remarque, avant la petite question si j'ai le temps, dernière petite remarque au bénéfice de l'âge que j'ai trouvé. Il y a quand même la dimension du sexuel qui est très très importante dans l'odeur. Une toute petite remarque, quand on n'est pas, ce qui n'est plus mon cas, moi j'ai jamais été marié d'ailleurs, mais quand on se dit tant mieux qu'il y ait beaucoup de femmes qui, parce qu'elles savent bien qu'elles cherchent des odeurs, parce qu'on sent que par rapport au mari, là on va avoir une puissance incroyable qui est la nouveauté odoriférante. Hein. Et je veux dire qu'avec donc l'usage et tout, la grande proximité, il y a une lassitude du point de vue de l'odeur. Donc c'était toujours très intéressant sur ce point. C'est pas mal.
C'est pas mal.
Et deuxièmement, toute petite remarque, je crois, est très importante, qui est une remarque que j'ai pu faire un peu au bénéfice de l'âge, qui a été le moment, et c'est une situation que j'ai connue en Italie, mais qui a été le moment où la mode est venue des déodorisants sexuels, je ne sais pas comment on peut dire, en fait, c'est les organes sexuels pour les femmes. Et qu'on a trouvé ça, nous, comme étant quelque chose de très, je le sais, là, on a une amie américaine, mais très américain, très protestant et tout. Et on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si ça se met à sentir trop bien, c'est un peu de l'air. Il y avait cette question, et je me souviens vraiment de débats entre hommes et les femmes aussi d'ailleurs, où on a parlé des odeurs de sexe, des femmes, enfin du goût, de l'odeur, etc., qui est très important et qui semble un peu tabou aujourd'hui. Et en tout cas. Et qui a été vraiment un moment de rupture, une rupture, parce que on va ah oui, il paraît que ça existe. Et donc c'est très bien. Dernier, et ça c'est
une remarque. C'est ce que j'allais dire.
Non, mais là, il y a trop de monde, je ne parle pas, mais c'est un lieu. Dernière question, dernier commentaire.
Je vais une très rapide question. Par rapport à l'exposé, notamment les questions patrimoniales, etc., je me suis posé la question, est-ce que finalement, il n'y a pas des odeurs qui se déplacent dans les lieux? C'est-à-dire qu'à une époque, ils étaient dans un lieu, et à une autre époque, dans un autre lieu. Je pense, personnellement, je vais essayer de donner un exemple que j'ai constaté personnellement, c'est l'odeur du métro, par exemple, parisien, surtout l'odeur des machines. En fait, je l'ai retrouvée dans le tram à Strasbourg. Donc, c'est passé du sous-sol à l'aérien. Alors, pas de la même manière, mais en fait, est-ce que tout comme l'odeur de l'urine dans les coins des châteaux, on la retrouve ailleurs à l'heure actuelle. Donc, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas finalement des déplacements pour... On perd des odeurs, mais certaines, elles se sont déplacées dans l'espace, peut-être.
Oui, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, mais ouais, c'est intéressant, tout à fait.
On va reprendre la question de Clément. Gardez vos questions pour la suite, parce que sinon, on n'arrivera pas à...